Emmanuel Bove, Le pressentiment. Chapitre 1. Le 13 août 1931, sur la fin de l'après-midi, un homme pouvant avoir une cinquantaine d'années montait l'avenue du Maine. Il était vêtu d'un costume foncé et coiffé d'un feutre d'un gris clair passé. Il portait quelques provisions pour son dîner, soigneusement enveloppé et ficelé dans un papier marron. Personne ne le remarquait, tant son aspect était quelconque. Sa moustache noire, son binocle, sa chemise à grosses rayures, ses chaussures de chevreau craquelées et comme un vieux vase, n'attiraient en effet pas l'attention. Au coin d'une rue, il s'arrêta plusieurs minutes pour regarder jouer les enfants, sans se demander si sa curiosité allait provoquer un attroupement. Il avait l'expression attendrie d'un père à qui la mort aurait ravi un fils. Et plus loin, pour entrer dans un bureau de tabac, il dut traverser l'avenue. Il le fit avec d'innombrables précautions, un bras levé pour attirer l'attention des chauffeurs dans le sillage d'une voiture d'enfant. Il faisait lourd. Le ciel était couvert et pourtant la lumière était aveuglante. Les camionneurs, nombreux dans ce quartier proche de la gare Montparnasse, avaient ôté leurs vestes. D'un siège à l'autre, ils échangeaient des injures aussi naturellement qu'on respire, et cela dans l'indifférence générale. À la hauteur du cimetière, Charles Benesteau, ainsi s'appelait cet homme, tourna à droite dans la rue de Vanves, et 200 mètres plus loin, il s'arrêtait devant une maison à la façade comme noircie au fusain. Sur un côté de l'entrée, une plaque signalait aux passants l'existence d'un certain docteur Schwartz, spécialiste des maladies de la gorge. Sans frapper, il ouvrit la porte de la loge en disant « C'est moi !» prit un journal déposé à son attention sur un petit guéridon et commença à gravir l'escalier. Il y avait un peu plus d'un an que Charles Benesteau s'était séparé de sa femme, de ses enfants, qui n'avaient plus reparu au palais, qu'il avait rompu avec sa famille, sa belle famille, ses amis, qu'il avait quitté son appartement du boulevard de Clichy. Que s'était-il passé lorsqu'un homme vit entouré de l'affection des siens, de l'estime de ses confrères, un changement d'existence aussi complet, à première vue incompréhensible? Aussi le lecteur nous pardonnera-t-il de nous attarder sur le passé et le caractère de Charles. Ça avait été en 1927 seulement que les faits et gestes de Charles avaient commencé à surprendre la famille Benesteau, le père surtout. Charles était devenu sombre, susceptible, coléreux. On avait d'abord pensé à une conséquence tardive de la guerre, puis à une maladie. En 1928, il fut décidé qu'il partirait avec sa femme pour le Midi. Mais à son retour, il n'y eut rien de changé. Au contraire, son état avait empiré. Il continuait cependant à se rendre régulièrement à ses occupations, à recevoir, à s'intéresser à tout ce qui touchait son milieu, mais il le faisait comme un homme qui a un secret, avec un air distrait, lointain, triste. Un air qui ressemblait étrangement à celui que nous lui avons vu tout à l'heure quand il s'était arrêté pour suivre les jeux de quelques enfants. Quand on lui posait une question, il ne répondait pas ou bien il haussait les épaules. Après les vacances de Pâques, il ne retourna plus au palais. On ne tarda pas à s'en apercevoir. Ce fut prétexte à un conseil de famille. On l'interrogea, on se fit persuasif, si persuasif, qui consentit finalement à parler. Il trouvait le monde méchant. Personne n'était capable d'un mouvement de générosité. Il ne voyait autour de lui que des gens agissant comme s'ils devaient vivre éternellement, injustes, avares, flattant ceux qui pouvaient les servir et ignorant les autres. Il se demandait si vraiment, dans ces conditions, la vie valait la peine d'être vécue. Et si le bonheur n'était pas plutôt la solitude que ces misérables efforts qu'il lui fallait faire pour tromper son entourage? Ce langage fit le plus mauvais effet sur sa famille. Tout le monde le regarda avec surprise et inquiétude. Ses opinions dans la bouche de Charles semblaient aussi déplacées que dans celles d'un enfant. On lui fit remarquer qu'il n'avait pas le droit de parler comme il le faisait. Il fallait laisser cela aux malheureux. Et quand on avait eu la chance d'avoir un père comme le sien, une femme comme la sienne, des frères comme les siens, on devait s'estimer heureux et tout faire pour rester digne d'eux. Que ceux qui n'avaient pas de fortune, pas de famille, tinssent des propos semblables, c'était pardonnable. Mais qu'un homme qui n'avait jamais souffert, qui à cause de sa myopie n'avait été qu'auxiliaire pendant la guerre, le fit, cela n'était pas permis. Quelques mois plus tard, une angine de poitrine emportait M. Benestot, père en 8 jours. Ce malheureux meurt ne parut pas frapper Charles outre mesure. Dès le matin, il quittait son domicile pour aller on se promenait, on ne savait tout. Souvent, il ne rentrait même pas déjeuner. Le soir, il s'enfermait dans son cabinet, et lorsque sa femme frappait à la porte, il lui parlait sans la laisser entrer. En janvier 1930, des difficultés s'élevèrent au sujet de l'héritage. De plus en plus inquiets, les frères et la sœur s'étaient réunis plusieurs fois. D'un commun accord, ils avaient estimé qu'il serait imprudent de remettre à Charles, tant qu'il n'aurait pas retrouvé la santé, la part qui lui revenait. On l'en avisa avec tous les ménagements possibles. Il s'emporta. On feignit de céder, mais le lendemain, on alla consulter un notaire sur le moyen d'empêcher Charles de dilapider sa part au patrimoine. Il en eut vent. De ce jour, il s'assombrit encore. Sa femme elle-même ne pouvait plus l'approcher. La manœuvre des siens avait accru son amertume. Que penser d'un monde où votre propre famille, vos propres frères, cherchent à vous nuire? Il écrivit une lettre de 8 pages à son frère. Il avait un peu la manie d'écrire, pour lui dire qu'il renonçait à la succession, qu'il n'était rien et qu'il lui fit plus horreur que les discussions d'argent. Sa femme lui fit observer qu'il n'était pas seul, qu'il fallait qu'il songeât à ses enfants et à elle-même. Il lui répondit que les Rivoires étaient assez riches pour qu'elle n'eût rien à craindre dans l'avenir. Il la pria de ne plus jamais lui parler de cet héritage. Elle se mit en colère. Il la regarda avec pitié et lui dit ces 2 mots d'une voix sifflante, de manière à leur donner un sens profond. « Oh, toi aussi !» En mai de la même année, il allait habiter une petite pension de la rue de Fleurus. 6 semaines plus tard, après toutes les sommations, sa femme demandait le divorce. Lorsqu'il eut refermé la porte de son logement, accroché son chapeau, posé son paquet sur la table de la cuisine, il se rendit dans la première pièce. Elle donnait sur la rue de Vanves et à la fin de la journée, le soleil l'égayait. Il en avait fait son cabinet de travail. Les murs étaient tapissés de livres. Il eut pu emporter des objets du boulevard de Clichy, notamment la terre cuite de Falconet, dont sa mère lui avait fait cadeau 1 ou 2 ans avant la mort, au moment où le jeune avocat célibataire, il s'était installé rue de la Pépinière, mais il n'avait pas voulu. Seule une tête de plâtre, achetée sur les bords de la Seine, ornait la cheminée. Devant la fenêtre, sur 2 tréteaux, une grande planche lui servait de bureau. Dans un coin se trouvait un divan. Une toile, qu'on devinait achetée avec des mesures approximatives, le recouvrait. Si elle était trop longue au pied et pendait à terre, elle était trop courte sur le côté et laissait paraître les grosses rayures blanches et grises du sommier. Charles ouvrit la fenêtre, revint à la cuisine pour y préparer son dîner. Une demi-heure plus tard, il s'asseyait à sa table de travail. Le soleil s'était retiré. De l'autre côté de la rue, un ouvrier fumait à sa fenêtre. De temps en temps, il se retournait, regardait derrière lui en baissant la tête, ce qui laissait supposer qu'il y avait un enfant qui jouait à ses pieds. Ses yeux perdus devant lui, Charles Benestot réfléchissait. Chaque soir, vers la même heure, il s'installait ainsi à son bureau pour écrire ses souvenirs. Il les avait déjà commencés, boulevard de Clichy. Il le faisait avec simplicité, sans art, sans la plus petite arrière-pensée d'être lu un jour. « J'ai déjà longuement parlé de ma mère, écrivait-il, mais j'ai omis de dire qu'elle avait l'habitude de répondre avec la plus grande bienveillance à toutes les demandes de secours. La petite anecdote que je vais rapporter ne s'effacera jamais de ma mémoire. Elle montre combien grande était la bonté de ma mère. » Cela se passait il y a une quarantaine d'années. J'avais donc 10 ans. Ma mère devait avoir l'âge que j'ai aujourd'hui. Elle était très belle. Je l'entendais souvent dire par tous les gens qui l'approchaient, et cela me remplissait de fierté. Charles continua ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Maintenant, seules les lumières de la rue éclairaient la chambre. Il rangea ses papiers, se leva. Son visage était empreint de lassitude. Sa tâche terminée, il n'éprouvait jamais cette satisfaction profonde que donne le travail accompli. Il demeurait aussi énigmatique, aussi insatisfait qu'avant. Car, il faut le dire, aucun besoin véritable ne le poussait à écrire ses souvenirs. Il ne voyait dans sa vie rien qui fût particulier. Il n'avait aucune rancune ni aucun amour violent. Son passé ne revivait devant ses yeux qu'à force d'application et d'efforts. C'était un travail sans éclat qu'il s'astreignait. Chapitre 2. Charles Benesteau venait de mettre son chapeau. Il s'apprêtait à sortir, comme il le faisait chaque soir, vers 9 heures, lorsqu'il entendit des bruits de voix et de pas dans l'escalier. Il crut d'abord qu'il s'agissait d'un groupe de jeunes gens, et comme ceux-ci l'effrayaient un peu à cause de leurs gestes brusques, qu'il détestait avoir à se protéger d'un coup, qu'il n'aimait pas à perdre contenance, il attendit derrière sa porte que le silence revînt. Mais les voix se firent plus distinctes et il reconnut qu'elles n'étaient pas celles de jeunes gens. Puis il perçut distinctement ces mots « Je n'ai jamais vu autant de portes de ma vie ». Au même moment, on frappa. « Tapez plus fort !» dit une voix féminine. Il reconnut celle de sa sœur. Il y avait presque un an qu'il n'avait pas vu Simone. Aucune émotion ne parut pourtant sur son visage. Il ôta son chapeau, retourna parlant dans son cabinet de travail pour faire de la lumière et revint ouvrir. Simone n'était pas seule. Ses deux frères, ceux qui avaient pris la direction de la fabrique, l'accompagnaient. Séparément, ils étaient déjà venus 2 ou 3 fois rue de Vanves pour supplier Charles de reprendre une vie normale. Ils s'effacèrent pour laisser passer Simone. Mais elle ne bougea pas. En une telle circonstance, la galanterie n'avait plus de raison d'être. « Entre le premier, » dit-elle à Edmond, comme s'il faisait nuit noire dans le petit appartement. « Mais vous auriez pu ne pas me trouver, » observa Charles. « J'allais sortir. C'est l'heure où je fais ma petite promenade. »« Eh bien, nous ne le savions pas, vois-tu. Nous pensions au contraire que c'était vers cette heure-ci qu'on avait vu le plus de chances de te trouver chez toi. « Donnez-moi vos chapeaux. Edmond, donne-moi ta canne. » L'aîné obéit. Sans s'en rendre compte, il le fit avec cette hauteur que l'on remarque chez l'acteur qui, au moment où il paraît en scène, est censé venir d'une fête. Puis il s'avança vers le cabinet de travail, suivi de Marc, qui n'avait pas voulu se séparer de son chapeau, et de Simone. « Voulez-vous que je vous offre quelque chose ?» demanda Charles, en tendant les mains et en les ouvrant. « Non, non, je t'en prie, pas de cérémonie. »« On peut s'asseoir ?» demanda Marc en prenant une chaise et en inclinant, comme au café, quand il reste des miettes de croissant sur le siège. « Certainement, mais assieds-toi plutôt dans ce fauteuil. »« Non, non, je le laisse à Simone. »« Mais je te dis que tu peux t'asseoir dans ce fauteuil, je vais en chercher 2 autres à côté. » « Mais tu vas pas déménager pour nous. C'est pas un déménagement qu'on apportait de fauteuil ici. Je le fais souvent. »« Ah, tu reçois donc des visites. Oh, bon, mais cela m'arrive. Edmond regarde sa sœur, puis son frère. Des gens que nous connaissons? Mais je crois pas, enfin, on ne sait jamais. On est souvent étonné d'apprendre que les relations qui nous paraissent les moins faites pour se connaître sont intimes. Marc sourit. Oh, ce que tu viens de dire n'a pas beaucoup de sens. C'est une pensée, dit Edmond avec ironie. Et il regarda Marc comme s'il regardait un étranger devant qui il venait de faire un mot. Tous deux étaient des hommes. L'un avait 44 ans, l'autre 52. On sentait qu'ils avaient besoin beaucoup lutter pour cesser d'être frères, que d'un commun accord, ils avaient transformé leur lien de famille en ceux d'associés. Écoute-moi, Charles, dit Edmond, nous avons à te parler sérieusement. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai demandé à notre sœur de nous accompagner. Simone s'était assise sur le divan. Elle était un peu gênée. Depuis une heure, elle n'avait pas cessé de réfléchir à l'attitude qu'elle prendrait. Car elle avait été très flattée que ses frères eussent jugé sa présence indispensable. Pour être digne de cette faveur, elle était prête à s'approuver tout ce qu'il dirait. Mais elle n'avait pas prévu cette conversation préliminaire. Beaucoup plus délicate que ses frères, elle redoutait, en y prenant part, d'être moins libre par la suite quand il s'agirait de blâmer Charles. Eh bien, c'est très bien, dit celui-ci. Je vous écoute tous. Aucun trouble n'était visible sur son visage. Il recevait ses frères et sa sœur comme il l'eût fait boulevard de Clichy. On m'a parlé de toi, commença Edmond. On m'a dit plus tard qu'il y a une semaine qu'on t'avait rencontré, des amis t'avaient rencontré rue. Attends. Oui, rue d'Odessa, dit Marc. Oui, rue d'Odessa, en compagnie d'une femme en tailleur. Les lacets de tes souliers traînaient par terre, paraît-il. Tu n'étais pas rasé. Tu tenais à la main un gros paquet enveloppé dans un journal. Tu devais porter ton linge chez une blanchisseuse. Il était pourtant 11 heures du soir. Enfin, même si tout cela est exagéré, tu es obligé de reconnaître, si tu es sincère, qu'il se passe quelque chose d'anormal en toi. En disant ces mots, Edmond s'approcha de la fenêtre. Regarde cette rue, il faut être malade pour venir habiter ici, quand on peut habiter ailleurs. Mais pourquoi? Cette rue est comme toutes les rues? Charles, je ne suis pas un idiot. Je comprends très bien ce qui s'est passé dans ton esprit. Tu es fatigué. J'ai interrogé les psychiatres. Ton cas n'a rien d'extraordinaire, quoi que tu puisses en penser. Je n'ai jamais pensé. Mais brusquement, tu as voulu t'isoler. Tu as eu assez de ta femme, de tes amis, de tes frères. Tu as cru qu'il y avait ailleurs des gens meilleurs. Tu as voulu rompre avec le passé et recommencer une autre vie. Tout cela est, je ne dirais pas normal, mais compréhensible. Malheureusement, il y a autre chose. Tu nous provoques, oui, tu nous provoques. Car vraiment, si tu n'avais voulu que t'isoler, que te séparer de nous, tu pouvais le faire d'une toute autre façon. Rien ne t'empêchait de louer une petite maison, un petit appartement, une chambre même à Passy, à Neuilly, à Auteuil, n'importe où, mais dans un endroit où il aurait été normal que tu habites. Et au lieu de cela, tu choisis, car c'est un choix. Ce n'est pas le hasard. Un des plus sinistres quartiers de Paris. Je n'ai vu que des boucheries chevalines dans cette rue de Vanves. Tu ne me feras pas croire que tu aimes ce quartier. Si tu t'y es installé, c'est parce que tu t'es dit, cela les embêtera. Eh bien oui, cela nous embête. Cependant que son frère parlait, Charles regardait distraitement devant lui. Là, il sursauta, mais très vite, il retrouva son calme. Mais comment peux-tu croire une chose pareille, Edmond? Comment peux-tu t'imaginer que c'est pour vous embêter, comme tu dis que je suis venu habiter ici? Pas une seconde, je n'ai eu une pareille intention. Alors pourquoi? Demanda Simone, à qui il avait semblé que le moment était excellent pour intervenir. « Parce que je n'ai pas voulu choisir, » répondit Charles. « Comment, tu n'as pas voulu choisir quoi ? Je vois que nous ne comprenons pas plus aujourd'hui que nous ne comprenions hier. Puisque vous vous êtes dérangé en si grand nombre, je vais tâcher de vous éclairer. Il faut, vous m'entendez, il faut que vous sachiez que si je me suis séparé de ma femme, de mes enfants, de vous, mes frères et sœurs, de mes amis, ça n'a pas été parce que je voulais refaire ma vie, comme vous me l'avez dit, ni parce que je voulais m'isoler, mais pour la raison bien simple que je pouvais disposer d'un revenu annuel de 14 000 francs. J'ai donc cherché, selon vos principes, un appartement dont le loyer ne dépassa pas le dixième de cette somme. Et celui-ci est le premier qui m'ait été signalé. Je l'ai retenu sans le voir, et lorsque je suis venu ici pour la première fois, je n'avais absolument aucune curiosité. Il ne s'agissait pas pour moi de savoir si cet appartement allait me plaire ou non. J'avais un endroit où dormir et où travailler, c'était tout ce que je demandais. « Eh bien, mon cher, » dit Edmond, « je ne croyais pas que tu étais dans cet état-là. Ah non, je ne le croyais vraiment pas. Je n'ai jamais vu cela, jamais, jamais. Mais cela n'a pourtant rien d'extraordinaire. Sans l'amour propre familial, personne n'aurait pensé à s'étonner de ma conduite. Ma femme n'a pas hésité. 6 semaines après mon départ, je dis 6, c'est peut-être 8, le fait d'elle-même. A demandé le divorce. Mes enfants sont grands. On les a toujours plus ou moins éloignés de leur père. Je n'ai donc fait de mal à personne. Mais mon pauvre ami, c'est pas à nous que nous pensons. C'est à toi. Tu crois donc que nous n'éprouverons aucune peine à te voir vivre ainsi, misérablement, sans affection, comme une bête? Mais tu te trompes si tu crois que je vis comme une bête. Je vis exactement comme avant, matériellement, j'entends, car moralement, ma vie est 100 fois plus belle. Tant mieux. Seule chose qui me surprenne, continua Edmond sur un ton pincé, c'est qu'avec des idées comme les tiennes, des idées aussi belles, tu aies gardé ta fortune. Moi, à ta place, je l'aurais donnée à une œuvre, à n'importe qui. Charles Benesteau se leva, alla ouvrir la fenêtre, car Marc n'avait cessé de fumer. Tu ne réponds pas ? Non, on ne peut pas répondre. J'ai tort, je le sais. Je le sais parfaitement, mais je ne peux pas faire autrement. Le jour est proche, pourtant, croyez-moi, où je parviendrai à me séparer de cet argent auquel vous vous intéressez si vivement. Durant une demi-heure encore, la conversation se poursuivit sur ce ton. Puis Marc, qui avait regardé sa montre à chaque instant depuis son arrivée, s'écria « Oh, il est 10 heures, il faut partir !» Tout le monde se leva. Simone se dirigea la première vers la porte. Elle voulait montrer que si elle n'avait presque rien dit, ça n'avait pas été parce qu'elle approuvait Charles. « Au revoir, mon cher, à bientôt !» dit Edmond. Mais Charles ne prit pas la main que lui tendait son frère. « Non, 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 dit-il, je descends avec vous. Ben, c'est que nous sommes en voiture. Cela ne fait rien, je vous quitterai en bas. » Chapitre 3. Lorsque la voiture qui emportait ses frères et sa sœur eut disparu, Charles Benesteau, qui l'avait regardé partir, immobile devant la maison, descendit la rue de Hambes, puis l'avenue du Maine, jusqu'au pont du chemin de fer. Là, il tourna à droite et atteignit bientôt la gare Montparnasse. Il était près de 11 heures du soir. Il faisait encore très chaud. De temps en temps, quelques gouttes de pluie tombaient. L'orage grondait. Devant un café dont le store, à certains moments, était secoué avec violence par le vent, Charles Benesteau s'arrêta. Mais le désir qu'il avait eu de s'asseoir à la terrasse s'évanouit aussitôt. Il prit le boulevard de Montparnasse. C'était sa promenade favorite. Il le suivait jusqu'à l'observatoire, puis regagnait son domicile par la rue d'Enfer-Rochaud. En marchant, il porta plusieurs fois la main à son front. Son pas était décidé. Monsieur Benesto n'avait plus rien de commun avec l'homme que nous avons vu s'immobiliser devant un groupe d'enfants. La colère montait en lui. Sans se soucier des passants, il lui arrivait de parler seul à haute voix. « C'est incroyable ! Je me demande de quel droit on se mêle de mes affaires !» Ces gens n'avaient-ils donc pas compris combien grand était le mépris qu'il leur portait? Et ils avaient l'audace de juger sa conduite, de lui reprocher de n'avoir pas abandonné sa petite fortune. Car de toute la conversation qu'il venait d'avoir, c'était ce reproche qui avait le plus frappé Charles Benesto. S'il était quelqu'un qui n'avait aucune qualité pour le lui adresser, c'était bien Edmond. Et plus il réfléchissait, plus il était obligé de convenir que celui-ci, malgré sa bêtise, avait trouvé le point faible. Arrivé à l'observatoire, au lieu de remonter vers la place du Lion de Belfort, comme il en avait l'habitude, Charles descendit le boulevard Saint-Michel. Il n'était pourtant pas loin de minuit. Mais il avait été si énervé par la visite de ses frères qu'il n'avait pas sommeil. Il se trouvait à la hauteur de la rue des Écoles lorsque, soudain, l'orage qui menaçait depuis 3 heures de l'après-midi éclata. En l'espace d'un instant, le boulevard fut désert. La pluie tombait avec une telle force que les voitures étaient obligées de marcher au pas. L'eau qui coulait sur les trottoirs donnait l'illusion d'une rivière. Charles Benesto dut courir pour se mettre à l'abri dans un café. Celui-ci était violemment éclairé. Le sol de mosaïque était couvert de traces de pas mouillés. Il était impossible d'approcher du comptoir tant il y avait de monde. De temps en temps, on percevait, venant de la rue, des bruits de seaux d'eau répandus. « Où est le téléphone ?» Charles Benesto descendit au sous-sol. À l'employé, il demanda un numéro. Peu après, il s'enferma dans une cabine. « C'est vous, Daniel ?»« Oh, excusez-moi de vous téléphoner à cette heure-ci. Il doit être très tard. Je voulais vous demander si je pouvais venir vous voir tout de suite. Est-ce qu'il y a de l'orage dans votre quartier ?»« Je prends un taxi et dans 10 minutes je suis chez vous. Je suis boulevard Saint-Michel. À tout à l'heure, Daniel. Merci. » Ce qu'il y avait eu de singulier dans cette conversation téléphonique, ça avait été le ton aimable de Charles. Cet homme que nous avons vu jusqu'à présent, si sombre, si loin de ses semblables, était redevenu, durant quelques minutes, le charmant fils Benesto des années d'après-guerre. Mais ce qui était encore plus singulier, c'est qu'à peine le récepteur accroché, ses traits s'étaient subitement durcis. Dans le taxi qu'il prit quelques instants plus tard, ils ne s'adoucirent pas. La pluie tombait encore avec force. Le tonnerre roulait au loin. Il n'y avait plus d'éclairs. L'orage s'éloignait. Charles Benesto pensait toujours aux reproches que lui avaient fait ses frères. Qu'adviendrait-il de lui s'il donnait tout ce qu'il possédait? Mais devait-il le faire? Il était parti parce que son entourage lui était devenu insupportable. Il avait cru montrer ainsi qu'il était un honnête homme et un homme différent. Mais l'était-il vraiment? N'était-il pas tout simplement un égoïste? N'était-il pas en réalité semblable à ceux qu'il méprisait, puisque l'argent pour lui n'avait autant d'importance que pour eux? Le taxi descendait à présent l'avenue Mozart. À l'angle de la rue Michel-Ange, il s'arrêta. Charles Benesto, une fois seul, resta un long instant immobile. On l'eût dit pris de crainte au dernier moment. Il leva la tête. L'immeuble de pierre de taille qui se dressait devant lui avait dû être construit vers 1905. Les balcons, la porte cochère étaient décorés de hauts reliefs représentant des naïades. Charles sonna, et peu après, il pénétrait chez Madame Charma Eckart. C'était une femme de 40 et quelques années. Elle était vêtue d'un peignoir qu'elle maintenait savamment fermé, c'est-à-dire de manière à ce que le décolleté, tout en étant très grand, ne fût pas exagéré. La gorge était un peu empâtée, mais la peau était fraîche. « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » demanda-t-elle en regardant le visiteur, comme s'il avait vagabondé toute la journée. « Oh, rien de particulier. Je voulais vous voir, Daniel, » répondit Charles Benestot, de cette même voix qu'il avait eue au téléphone. C'était en 1924, c'est-à-dire 2 ans seulement après son mariage, que Daniel, qui ne portait alors que le nom de Charme, celui sous lequel elle avait fait du théâtre, était devenu sa maîtresse. Puis elle s'était mariée avec un monsieur Écart, et ses relations avec Charles Benestot s'espacèrent. Monsieur Écart était mort peu après, en lui laissant une jolie fortune, comme elle disait. Dès qu'elle eut gagné le procès que lui avait intenté la famille Écart, elle alla habiter avenue Mozart. Elle avait très peu d'amis, pas de famille. Elle s'isola de plus en plus pour fuir ses camarades de théâtre, qui lui demandaient sans cesse des secours. Par contre, elle se lia d'une amitié sincère avec Charles Benestot. Il était déjà à l'époque sujet à des accès de misanthropie, ce qui convenait parfaitement à la jeune femme. Tous deux se rencontraient souvent, mais jamais personne de l'entourage de l'avocat ne s'en était même douté. Aujourd'hui, elle demeurait la seule personne de ses amis de jadis qu'il continua de fréquenter. Pour qu'elle ne s'imagina pas que c'était pour l'épouser plus tard qu'il bouleversait son existence à ce point, il ne lui avait rien caché de ses pensées les plus secrètes. Elle jouait à la femme qui comprend les mobiles les plus obscurs des actes humains. Elle l'encouragea même dans la voie où il s'était engagé. « Entrez, Charles, entrez! Vous êtes extraordinaire, Charles! Je ne vous vois pas pendant 1 mois, 2 mois, et un beau jour, vous arrivez à minuit, sous la pluie exténuée. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait toute la journée ?»« Je n'ai rien fait de particulier, j'ai écrit. Le temps était d'ailleurs très lourd. Vous n'êtes pas comme d'habitude, Charles. Qu'est-ce que vous avez ?»« Je vais vous le dire. » Après le dîner, mes frères et ma sœur sont venus chez moi. Et vous savez que chaque fois que je les vois, c'est automatique, je tombe malade. « Ah, ils sont venus !» dit Daniel, subitement intéressé. « Et qu'est-ce qu'ils vous voulaient ?»« Toujours la même chose. Avez-vous soif ? Désirez-vous une citronnade ?»« Fernande est couchée. Je vous la préparerai moi-même. »« Non, merci, non, c'est pas la peine. Il est trop tard. » Il désirait, je parie, vous ramener dans le droit chemin. Oh, ne croyez pas cela. Ils s'ennuyaient sans doute. Ils ont dû se dire, tiens, si on allait chez Charles, on va voir ce qu'il devient. C'est beaucoup plus agréable de prendre de grands airs, de donner des conseils, de faire des reproches à un frère devenu fou, que de rester toute une soirée à se regarder. Vous avez l'air ennuyé, Charles. Vous savez bien que cela n'a aucune importance. Vous agissez comme vous l'entendez. Personne ne peut vous en empêcher. Je vous comprends très bien, moi. Je vous admire même d'avoir eu la force d'agir selon votre conscience. Vous êtes libre, vous êtes indépendant. Quand vous recevez une visite comme celle de ce soir, soyez aimable pendant 10 minutes. Non, Daniel, non, non, il faut que je vous parle. Il y a quelque chose qui m'est désagréable en ce moment. J'ai le sentiment que je manque de volonté, de courage, et que par faiblesse je ne romps pas complètement avec le passé. Il est inadmissible tout de même que mes frères puissent venir ainsi chez moi, me faire des reproches, partir convaincus de ma folie. Si quelques mois s'écoulent encore de cette façon, de mon acte, je n'aurai plus que les inconvénients et aucun avantage. Il y a 15 mois que j'ai quitté ma famille, mes amis, par dégoût et par mépris. Je ne pouvais plus voir les hommes s'agiter pour des raisons intéressées. Je voulais être seul. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que tout doucement, Ce que j'avais quitté recommence à jouer un rôle dans ma vie. Il y a un mois, Marc est venu seul. Il y a 2 mois, c'était Edmond. Aujourd'hui, ils sont venus tous ensemble. Mais cela n'a aucune importance. Une très grande importance. Une si grande importance que désormais, je ne les verrai plus jamais, ni eux-mêmes, ni même vous, Daniel. Mais qu'est-ce que vous avez, Charles? Ni même vous, Daniel. C'est pour vous le dire que je suis ici. Je continue à avoir beaucoup d'affection pour vous. Je n'oublie pas les heures de bonheur que vous m'avez données. Mais il n'y a aucune raison pour que je continue à vous voir. Lorsque Charles Benestor rentra chez lui, il était près de 3 heures du matin. À présent, tout était clair dans son esprit. Il ferma les volets, s'allongea habillé sur son divan. Il revit Madame Charmécard, le reconduisant dans la porte, se défendant de la même manière contre le sommeil et la surprise. Avant de prendre un taxi, il avait fait quelques pas dans l'avenue Mozart. Il regarda le plafond, ce modeste plafond sans moulure, au centre duquel était fichée la tige du gaz. Il n'y avait même plus aucun lien avec le passé. Daniel et même étaient rayés. Il ne restait plus qu'à régler la question d'argent. « C'est malheureux, pensa-t-il, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si je donne ma fortune à des pauvres, à des riches, peu importe, que je la laisse à mes frères, à ma femme, à mes enfants, ce qui serait parfaitement naturel, du moins aux yeux de tout le monde, je trouverai, moi, en conséquence, sans rien. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mon raisonnement ne peut plus être logique. Supposons maintenant la chose faite. J'ai donné ma fortune, je n'ai plus rien. J'habite au-devant un petit appartement de 3 pièces et une cuisine d'un loyer annuel de 1400 francs, charges comprises. Évidemment, ce n'est pas cher. Je peux demander au propriétaire une réduction et l'obtenir. Mais si je n'ai rien, comment payer? Il est vrai que je peux donner congé et prendre au lieu d'un appartement une seule chambre. On en trouve dans le quartier à 500 francs par an. C'est impossible puisque j'ai un bail. Il me reste la possibilité de prendre des pensionnaires. 2 pensionnaires par exemple, mais si je n'en trouve pas, comment vivrais-je? Je n'ai qu'à travailler. Je n'ai qu'à chercher à gagner 1000 francs par mois. Je suis avocat. En me répandant dans le quartier, en m'adressant un peu partout, je dois trouver des clients, des gens qui ont besoin de conseils, d'assistance. L'aube déjà éclairait la chambre. Charles Benestor n'avait pas encore pu dormir. Il réfléchissait à tous les détails de l'organisation de sa vie matérielle, à l'emploi qu'il ferait de sa fortune quand il n'en aurait plus besoin pour lui. Chapitre 4. Je me souviens très bien que lorsque nous habitions Saint-Cloud, mon frère aîné était déjà un grand et beau jeune homme. Ma pauvre cousine Régine, qui devait mourir si tragiquement pendant la guerre, ne cachait pas les sentiments qui lui inspiraient. Edmond était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, élancé. Il avait le visage beaucoup plus allongé qu'aujourd'hui. Une moustache naissante lui donnait une sorte de gravité. Mais ce qui plaisait surtout chez lui, c'était la grâce et l'aisance de ses manières. Charles Benestor devait s'interrompre à ce dernier mot. On venait de frapper à la porte de l'appartement. « Oh, pourvu que ce ne soit pas encore mes frères !» murmura-t-il en se levant. Il ouvrit. Un petit homme qu'il n'avait jamais vu se tenait sur le palier. C'était un ouvrier endimanché, sans aucun doute. Il tenait son chapeau à la main. « Je m'excuse, monsieur, » dit-il en se dandinant par timidité, « de vous déranger, mais j'ai appris que vous étiez avocat. Et comme je suis votre voisin, j'ai pensé que peut-être vous pourriez me dire ce que je dois faire pour un divorce. Entrez, entrez, nous allons parler de cela dans mon bureau. » Le visiteur était de plus en plus embarrassé. À chaque pas qu'il faisait, il s'arrêtait comme s'il était indiscret. « Comment vous appelez-vous »«
Vincent. »«
Vincent comment ?»«
Vincent Sarrazini. »
« Et qui vous a dit que j'étais avocat ?» demanda Charles Benestaud, comme le commerçant qui a fait une annonce dans plusieurs journaux et qui prie les lecteurs de découper le bon prime afin de calculer ensuite quelle a été la meilleure publicité.
« Mais tout le monde le sait, monsieur. »
Charles, au lendemain de la visite de ses frères, c'est-à-dire il y avait près d'une semaine, avait en effet déposé chez différents boutiquiers du quartier une carte sur laquelle il avait écrit en s'appliquant « Avocat donne consultation, prix modique, 102 rue de Vanves, Benestaud. » Vous ne vous souvenez pas d'avoir lu une petite annonce quelque part ? Le visiteur regarda Charles Benestaud avec étonnement.
« Mais on m'avait dit que monsieur avait beaucoup travaillé et que maintenant il s'était retiré. » « Oh, si j'avais su !»«
Qu'est-ce que vous auriez fait ?»«
Ben, je ne serais pas venu. Je pensais que vous alliez me dire ce que je voulais savoir, comme cela, simplement, en parlant, en voisin. »
Charles haussa les épaules. « Mais certainement, mon ami, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Votre visite ne vous coûtera rien. Mais tout ce que je pourrais faire, ce sera de vous donner une marche à suivre. Je ne vais plus au palais. » Je ne plaide plus. Je ne veux plus avoir de rapport avec mes confrères ni avec les magistrats. » L'ouvrier rassuré expliqua alors son cas. Il s'était marié, il y avait une quinzaine d'années, à Marseille avec une jeune fille de la ville. Il avait eu un enfant presque aussitôt. Après la guerre, ils étaient venus se fixer à Paris. Oh, il regrettait le midi, mais il fallait bien gagner sa vie. Et on a gagné mieux à Paris. Il avait été maçon. Maintenant, il était contremaître. Sa femme, de son côté, faisait des ménages. C'était là la cause de tous ses malheurs. Comme elle était encore jolie, malgré ses 40 ans, les messieurs chez qui elle se rendait lui faisaient la cour. Et à l'un d'eux, un employé du métro, elle plus particulièrement, Vincent Sarrazini n'en eut jamais rien su s'il les avait rencontrés un jour, tendrement enlacés. Il était rentré chez lui, sans dire un mot, et il s'était enfermé à double tour. Et quand l'épouse infidèle était revenue, rentrée à son tour, elle avait eu la surprise de trouver la porte close. Elle avait frappé, il était près de minuit. Le mari trompé et sa fille, Juliette, avaient les yeux grands ouverts, mais ils ne bougeaient pas. La femme continuait de frapper. À ce moment, Juliette n'y tint plus. Malgré son père qui lui tordait les poignets, elle cria « Nous sommes là !»«
Mais comment vous êtes là et vous ne trouverez pas ?»« Mais... Ah, nous allons voir !»
Hors d'elle, la femme était repartie, tant sans avoir ameuté la maison et les passants. Puis elle s'était rendue au commissariat où elle avait raconté son histoire. Peu de temps après, un agent l'accompagnait rue de Vanves. Cette fois, Vincent Sarrazini ouvrit. Mais quand, sous le coup de la colère, il voulut mettre l'argent, l'agent au courant de son infortune, l'épouse joua l'indignation et la stupeur. Comment on osait l'accuser de tromper son mari? Elle qui s'était sacrifiée pour lui. Pour que celui-ci eût l'audace de pareille accusation, c'était qu'il avait lui-même commis quelque faute. Elle porta la main à son front, comme si les ténèbres venaient de s'évanouir. Oh, maintenant, elle comprenait tout. Elle comprenait pourquoi son mari avait imaginé l'histoire de la rencontre, pourquoi elle ne l'avait pas ouvert. Pourquoi Juliette, finalement, avait crié qu'elle était là, derrière cette porte fermée à clé? Tout cela était clair. « Juliette !» cria-t-elle devant le sergent de ville. « Juliette, dis la vérité. Je t'en supplie, dis la vérité. »«
Qu'est-ce que te voulait ton père? Pourquoi avait-il fermé la porte à clé? Pourquoi t'empêchait-il de m'appeler? Bien, vous voulez divorcer, mais votre femme, elle ne veut pas, dit Charles Ménestot, en homme qui craint d'apprendre des choses trop laides. Oui, elle prétend qu'elle m'a toujours été fidèle. Mais est-ce que vous voulez la preuve du contraire? Je l'ai vue dans les bras d'un homme. Mais vous dites vous-même qu'elle affirme que ce n'est pas vrai. Elle n'avouera jamais, elle a bien trop peur. Trop peur de quoi? De moi. Tant qu'elle n'ira, elle sait très bien que je ne ferai rien, parce que je me demanderai toujours, ou bien que je sois certain de ce que j'ai vu, si je ne me trompe pas. Monsieur Ménestot avait écouté cette histoire lamentable avec indifférence, tant les protagonistes lui paraissaient peu intéressants. Il n'avait posé de questions que par bonté, pour donner l'illusion aux visiteurs qu'il s'intéressait à lui. Il leva brusquement la tête et regarda attentivement le contremaître. Petit, les épaules tombantes, où il n'avait pas grande allure dans son costume de cheviotte lit-de-vin, tout neuf, dont les marches avaient des plis aussi nets que ceux du pantalon, dans ses chaussures d'un jaune criard, dont une partie est de cuir tressé. « Si je vous comprends bien, dit Charles en le regardant dans les yeux, votre femme sait qu'elle est la plus forte parce que vous l'aimez. Elle feint d'avoir peur de vous. Elle crie, elle vous accuse des pires choses. Mais tout cela est de la comédie. Elle est la plus forte et vous voulez divorcer? Oui, mais à la condition que la charge de ma fille me soit confiée. Mon enfant, c'est le seul être au monde que j'aime. » « Oh, bien, ce sera difficile, à moins que ne vous entendiez avec votre femme, qu'elle ne soit consentante. Oh, si vous voulez, je peux aller la voir, lui parler. » Vincent Sarrazini baissa la tête en signe d'acquiescement, semblait-il. « Et où habitez-vous ? » « Oh, sans carate. Et quand vaut-il mieux que j'aille voir votre femme ?» 11h30, elle prépare le déjeuner. Elle est toujours là. Mais j'ai réfléchi. Je crois qu'il vaut mieux que vous ne la rencontriez pas. Elle entrerait en vous voyant dans une colère inimaginable. Et qu'elle ne peut rien contre moi, elle serait capable de s'en prendre à ma fille. Bon, alors résumons. Vous voulez divorcer? Oui, monsieur. Eh bien, venez me revoir demain, à la même heure. J'aurai réfléchi à votre affaire et je vous dirai ce qu'il faut que vous fassiez. » Dès qu'il fut seul, Charles Ménestot songea longuement à la visite qu'il venait de recevoir. Le côté vulgaire de cette affaire, tout ce qu'elle laissait entrevoir de cris, de coups, de promiscuité, ne retint pas une seconde son attention. Comme le jour où, jeune avocat, une amie de son père, Madame Édouard Bourdinger, était venue lui parler d'une indélicatesse commise par son amant, il examina avec le plus grand sérieux le cas qui lui était soumis. « Ce pauvre homme, pensa-t-il, si je ne m'occupe pas de lui, il ira chez un avocat dont il relèvera le nom dans un journal. On lui soutirera à tout ce qu'il possède. L'affaire durera 3 ans, et il la perdra. » Un instant, Charles songea à plaider lui-même cette cause. Mais à la seule perspective de retourner au palais, de revoir ses confrères, de se replonger dans sa vie passée, il eut un léger vertige. C'était impossible. D'autre part, il ne pouvait abandonner ce malheureux contremaître à son sort. Ce fut alors que la solution suivante se présenta à son esprit. Il irait voir un de ses anciens confrères. Il lui recommanderait chaudement Sarrazini. Cela durerait un quart d'heure, ensuite tout serait terminé. Le lendemain matin, comme il l'avait décidé, il se rendit chez Maître Albert Testa. De tous ses camarades de jadis, celui-ci était le plus sympathique. C'était celui qu'il était le moins désagréable à Charles de revoir. N'était-il pas écrié lorsqu'il avait appris l'étrange crise que traversait son confrère? Comme je le comprends. Pourtant, Charles hésita longtemps à entrer. Durant plus d'une demi-heure, il se promena dans le quartier de l'Europe où Maître Testa habitait. Il lui répugnait, sans qu'il sût dire pourquoi, de faire cette visite. Il devinait déjà toutes les questions qui allaient lui être posées. Il se voyait déjà obligé de reprendre son masque, ce masque dont il s'était débarrassé avec tant de joie. Mais ne devait-il pas le faire pour ce pauvre contremaître? Finalement, il sonna. « Oh, quelle surprise! Quelle bonne surprise !» s'écria Albert Testa. « Je croyais que vous étiez rayé du nombre des vivants. On m'avait raconté à votre sujet des choses tellement extraordinaires. » Albert Testa avait à peu près le même âge que Benesto, mais il était chauve. « Faut rien exagérer. Mais je m'en doute, mais racontez-moi si vous êtes arrivé exactement. »« Oh, c'est trop compliqué. Je vous parlerai de cela une autre fois. » Charles n'avait pas cessé de sourire depuis qu'il était entré dans le cabinet de son camarade. Depuis qu'il avait quitté le boulevard de Clichy, il n'avait fait aucun achat de vêtements. Aussi son costume était-il usé et lustré, ses chaussures fatiguées. Jusqu'à ce jour, il n'y avait pas songé. À cet instant, en face de Testa, il s'en rendit compte. Mais au lieu de se troubler, il en éprouva une profonde satisfaction. « Bien, je suis venu vous voir, » dit-il, « au sujet d'un de mes voisins, un contremaître qui voudrait divorcer. Je n'ai pas voulu laisser ce brave homme aux prises avec des inconnus. J'aurais aimé que vous vous occupiez de son affaire, avec le même soin, avec la même conscience, que s'il s'agissait d'une affaire appelée à un gros retentissement. Mais pourquoi ne vous en occupez-vous pas vous-même ? Parce que je n'exerce plus, et que je n'exercerai plus jamais. Oh, je croyais que vous vouliez seulement vous reposer pendant un an. Je ne me repose pas. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, beaucoup de choses. Ce qu'on m'a dit est donc exact. Je plaisantais tout à l'heure. Je répétais simplement ce que j'avais entendu dire, mais sans y croire. Oh, je vous prie, ne me parlons pas de cela. Quand même, c'est extraordinaire si c'est vrai. C'est au contraire d'une simplicité enfantine. Vous appelez cela simple, vous, de quitter sa famille, ses amis, sa situation, pour vivre comme un misérable? Non, je vous en prie, ne parlons pas de cela. Parlons de mon voisin. C'est entendu, n'est-ce pas? Je vous l'envoie. Albert Testa, à qui il était désagréable de s'occuper d'une aussi piètre affaire, qui était de ces avocats qui ne défendent pas n'importe qui, répondit « Oh, oui, c'est entendu, envoyez-le-moi. » Par curiosité de connaître l'homme pour lequel son confrère se dérangeait. « Vous l'enverrez demain. » Charles Benesto sortit. Il comprenait à présent nettement pourquoi il évitait avec tant de soin les gens qu'il avait connus. Une distance immense le séparait d'eux. Pour eux, ce qu'il avait fait était extraordinaire, alors que pour lui, c'était si simple.